Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Aujourd'hui, rien n'est réglé comme hier. Bien au contraire, au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, rien n'a vraiment avancé ni changé. Le président qui vante le compromis, qui a clairement aussi mis la pression sur les oppositions. Alors, drôle de manière de construire des compromis, me direz-vous. Et plus largement, sur l'état de notre démocratie. Nous écouterons l'analyse de Michel Onfray, qui dénonce une démocratie dévitalisée, des classes dirigeantes délégitimées, un peuple méprisé et Bruxelles toute-puissante, n'en jetez plus. On l'écoutera et nos invités vont réagir. Un procès qui promet de faire beaucoup de bruit, celui du camionneur qui avait agressé, lynché, il faut bien le dire, un cycliste. On vous racontera cette affaire incroyable qui a suscité énormément de réactions. Et puis un sondage sans surprise sur l'inquiétude des Français autour de l'immigration en France. Sans surprise, oui, sauf que vous le verrez, une partie des personnes interviewées qui se déclarent de gauche partagent de plus en plus cette inquiétude. Comment l'expliquer? Nous en parlerons. Voilà donc pour le programme. Dans quelques instants, je vous présenterai nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va évidemment revenir à l'allocution du président de la République hier à 20h. Emmanuel Macron qui a assuré, vous le disiez, vouloir bâtir des compromis avec ses opposants, mais qui leur laisse 48 heures pour formuler des réponses. Proposition d'ailleurs amèrement accueillie par les différents groupes d'opposition. Jordan Bardella, par exemple, renvoie la balle au chef de l'État. Écoutez.
Déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir l'a démontré. S'il a compris qu'il serait contraint de composer avec une opposition solide, s'il a peut-être fait en apparence quelques accommodements sur la forme et sur la méthode, il a en revanche indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent. C'est au président de la République, qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
Et puis direction l'Assemblée nationale à présent, où les élections de présidence de groupe se poursuivent aujourd'hui. Bonjour Reda Emrabit, on parle aujourd'hui du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. On connaît déjà le nouveau président du groupe PS, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour les Verts.
Effectivement, c'est Boris Vallaud qui a été élu président du groupe socialiste et apparenté assez nettement face à ses deux autres opposants, Jérôme Guedj et Guillaume Garot. Boris Vallaud qui est député des Landes, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée au moment où il était sous la présidence de François Hollande et qui a été aussi camarade de promotion à l'ENA avec un certain Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il l'a évoqué au moment de son allocution, le nouveau président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Il veut être face au président une force de proposition et d'opposition. Autrement dit, pas de compromis possible avec le président actuel et son gouvernement. Ce qui a fait écho évidemment à l'allocution d'hier soir. Et puis vous l'avez dit, il y a aussi une autre élection qui va compter. C'est celle de la présidente et du président du groupe Europe Écologie Les Verts, puisqu'il y aura deux représentants, hommes et femmes, pour ce groupe. On parle de Julien Bayou en tant que membre masculin, lui qui est déjà secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis il y a une lutte à trois côté féminin, avec notamment Sandrine Rousseau qui serait pressentie, et ensuite l'intergroupe NUPES qui regroupe toutes ces sensibilités de gauche se réunira dans l'après-midi, mais on n'est pas prêt de sortir de l'usine à gaz parlementaire qui risque de durer très très longtemps.
Merci pour ces prédictions, chère Reda. Plus de 50% de cas positifs en une semaine en France. Vous l'aurez compris, le Covid repart de plus belle. D'ailleurs, nombreux sont les pays européens à y être déjà confrontés depuis quelques semaines. Mais alors que la fin de l'état d'urgence est prévue pour le 31 juillet, faut-il d'ores et déjà s'inquiéter pour la saison qui s'annonce? Détail Quentin Gribel.
Un nombre quotidien de contaminations qui a triplé en trois semaines. Le 1er juin dernier, 25 000 cas de Covid étaient recensés en France contre plus de 77 000 hier. Une hausse fulgurante due à l'arrivée des sous-variants BA4 et BA5 de la famille d'Omicron.
Ils sont plus contagieux, mais surtout, ils arrivent à contourner très légèrement l'immunité qu'a acquis la population suite à la vaccination et suite aux infections par Omicron BA1 et BA2.
Et le nombre de tests positifs n'est pas le seul à augmenter. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de 29,9% en une semaine. L'été ne devrait pas pour autant être chamboulé, mais attention à la rentrée.
Avec le refroidissement des températures, la reprise de la vie à l'intérieur des domiciles, fenêtres fermées, là il y a un risque plus important de reprise des contaminations, ce d'autant plus que l'immunité de la population pourrait être moins optimale. Et là, évidemment, il faudra remettre en place un certain nombre de mesures barrières.
Alors pour éviter d'en arriver là, le gouvernement appelle les personnes les plus fragiles à recevoir une deuxième dose de rappel, soit la quatrième injection depuis le début de l'épidémie.
Un mot des conditions météorologiques qui vous attendent. Sachez que 31 départements du centre-est et du nord-est ont été placés en vigilance orange pour des orages. C'est un appel évidemment à la plus grande précaution car hier soir la grêle s'est abattue et a causé de nombreux dégâts avec des toitures détruites notamment dans plusieurs départements. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, évidemment, place au débat Midi News en compagnie de Sonia et ses invités. Avant cela, l'écho. La hausse des prix qui fait chuter les ventes de produits frais également. C'est ce qu'on va voir avec Eric de Rilmaten.
Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Oui, je voulais vous communiquer le tout dernier baromètre du magazine LSA spécialisé en grande distribution et l'Institut Kantar parce que c'est vrai que la chute d'achat en produits frais est importante. On enregistre des chutes de moins 33% pour la viande, le fromage et la charcuterie moins 20%. Alors Kantar explique que ce sont surtout les personnes modestes qui ont réduit fortement les dépenses. Mais en tout cas, on voit aussi les yaourts qui ont énormément chuté avec moins 4% ou même moins 9% pour le bio. Ça donc c'est pour le mois de mai comparé à mai 2021. Et cela pourrait durer parce que les produits frais vont augmenter. Les industriels parlent de 14 à 16%. C'est ce qu'ils réclament comme hausse en raison du prix du carton, papier, les coûts, les transports, etc. Donc tout ça va provoquer une hausse des prix dans les mois qui viennent. Maintenant, le chèque consommation est attendu avec impatience, disent les associations de consommateurs.
C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
Et place au débat. Alors je vous le disais, rien n'est réglé. On va parler de ce qui se passe au lendemain de l'allocution du président Emmanuel Macron. Puis on écoutera tout à l'heure une analyse plus largement sur l'état de notre démocratie. Peut-être que le tableau est un peu noir, de celui qui est brossé par Michel Onfray. Démocratie dévitalisée, classe dirigeante délégitimée, peuple méprisé et Bruxelles tout puissant qui nous gouverne. Qu'en pensent nos invités? Nous allons le savoir bientôt. Nathan Devers, merci d'être là et bonjour à vous.
Bonjour,
agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du jeu. Raphaël Steinville nous accompagne. Bienvenue
bonjour,
et bonjour, rédacteur en chef politique auprès de Valeurs Actuelles. Monsieur Philippe Doucet est là, qui est membre du bureau national du Parti socialiste, ancien maire d'Argenteuil.
Bonjour Sonia.
Tiens, Philippe Doucet, quand vous tendez la main à quelqu'un, est-ce qu'en même temps, paf, vous lui mettez une petite gifle, vous lui mettez la pression?
C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Déjà, je commence par dire bonjour et puis on tend la main et on essaye d'être courtois en tendant la main.
Bonne composition. Pourquoi je vous dis ça? C'est quand même une drôle de manière de tendre la main. Hier, tout en vantant la nécessité du compromis, de l'union, de la coalition, de la nouvelle finalement manière de gouverner, ben Emmanuel Macron a mis la pression sur les oppositions en lançant une sorte d'ultimatum. Est-ce que c'est ainsi qu'on tend la main, Nathan Devers? Est-ce que vous avez été surpris?
Non, surpris, pas spécialement, je dois dire, parce que... alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le président du « en même temps ». Donc, on pourrait tout à fait imaginer que dans cette Assemblée nationale, qui est très composite, qui est très hétérogène, qu'il puisse y voir le miroir de sa propre méthode politique et se dire « je vais pratiquer du « en même temps » à une échelle plus large que celle qui a été la mienne jusqu'alors ». Manifestement, ça ne va pas trop être le cas, parce que j'ai l'impression que quand même Emmanuel Macron s'arroge le monopole en quelque sorte de la politique rationnelle, de la politique légitime. Et il y a une manière parfois de délégitimer l'opposition avant même de dialoguer avec elle. Je donne un exemple pour être concret. Dans l'entre-deux-tours, on a vu Emmanuel Macron faire beaucoup d'appels du pied aux insoumis. Il a repris l'expression de planification écologique. Il voulait prendre ces électeurs-là. Et immédiatement après avoir été élu, donc au moment de la campagne législative, les macronistes se mettent à dire le plus grand mal de cet électorat qui avait pourtant été courtisé par Emmanuel Macron. Donc là, il y a une forme de contradiction qui montre bien, si vous voulez, une forme de dialogue qui ôte la légitimité à l'interlocuteur.
J'entends votre analyse, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris ? Parce que quand on entend la porte-parole du gouvernement, je crois qu'on n'a pas compris en réalité. Donc, traduction par Olivia Grégoire.
La nouvelle Assemblée. Elles expriment des inquiétudes. Le sentiment
d'avoir... Ni ultimatum, ni question de 48 heures. J'ai réécouté avec beaucoup de précision les propos du président de la République qui a parlé, ses mots sont précis... À son retour du Conseil européen, dont on parlera peut-être.
Dans 48 heures demain.
À son retour du Conseil européen, effectivement, dans 48 heures demain soir, nous commencerons à bâtir. C'est-à-dire que c'est tout sauf un ultimatum. Un ultimatum, c'est la fin. Là, il ouvre le début. J'attends vos copies au retour vendredi soir sur oui, non, sur tel axe du projet. C'est pas ça. C'est quand je reviendrai, on va continuer, on va même commencer à bâtir, ce sont ces mots, avec les oppositions pour trouver des voies et moyens. C'est le début du chemin, ça n'est pas la fin.
Voilà, parce qu'elle, elle a réécouté l'allocution. Il faut la mettre en replay 3-4 fois.
Elle, je pense qu'elle s'est inscrite pour les Jeux Olympiques de Paris au rayon kayak, hein, parce que là, elle remonte le courant, elle va ramer, là, et elle rame dur. Hein. Donc là, elle va avoir la médaille d'or de la remontée en kayak, elle va se faire des muscles. Franchement, bon, tout le monde a bien compris. Le sujet qu'a Emmanuel Macron, le président de la République, c'est qu'effectivement, il est légitime parce qu'il a été élu président de la République. Donc, il a une légitimité. Mais la difficulté qu'il a, c'est qu'aux élections législatives, son programme n'a pas été élu. Et donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il ne peut pas arriver devant les Français. Les Français n'ont pas voté, par exemple, pour la retraite à 65 ans. Non, mais par exemple...
Est-ce que vous connaissez son projet ?
C'est deux choses. Enfin, moi, j'ai retenu deux choses.
Pour le pays, vous ne retenez pas de réforme.
J'ai retenu la retraite à 65 ans, le RSA sous condition, les 6 EPR.
Ça, c'est un projet pour la France.
Ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas une vision.
Moi, je pose la question.
Mais vous avez raison, et c'est la seule question. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron débute son allocution hier en disant « J'ai été élu sur le fondement d'un projet clair, honnêtement, et donc proposant après aux oppositions de s'accorder sur un certain... Mais son projet, on ne le connaît pas. Il est fluctuant, notamment sur les retraites. On l'a vu pendant l'entre-deux tours, où on ne savait plus si c'était 65 ou 64 ans. Et donc, c'est très difficile dans ce contexte, pour ceux qui voudraient faire œuvre de construction et amender éventuellement le projet présidentiel, mais le rejoindre sur un certain nombre de points, de signer un chèque alors qu'on ne connaît pas le montant.
Oui. Même si on est donc de bonne composition,
il faut qu'ils changent de méthode par rapport à ça.
Il faut qu'on connaisse le projet.
Oui, mais donc, il n'y en a pas. Le projet, qu'est-ce qui s'est passé ? Le projet de 2017 d'Emmanuel Macron, c'est le social-libéralisme. La crise des jaunes lui a coupé les jambes. Voilà. Donc il est comme un canard à qui on a coupé la tête, il continue à marcher. Ça, c'est pas vu parce qu'il y avait la Covid. Bon, maintenant, aujourd'hui, il est réélu dans un référendum. Il a une base sociale de 28%. Il est réélu au deuxième tour. Dans un référendum anti-Marine Le Pen. Bien, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc maintenant, il faut qu'il construise des majorités texte par texte.
Il lance la patate chaude, il la refile aux oppositions. Je vais faire réagir Maître Maxime Thibault qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Maxime. Écoutons Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'il pense de cette méthode de dialoguer dans l'écoute et le respect, a dit le président hier.
Déclaration solennelle d'Emmanuel Macron hier soir l'a démontré. S'il a compris qu'il serait contraint de composer avec une opposition solide, s'il a peut-être fait en apparence quelques accommodements sur la forme et sur la méthode, il a en revanche indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent. C'est au président de la République, qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
Mais c'est incroyable. Chacun se refile le mistigri. Le président dit que c'est aux oppositions, les oppositions disent que c'est le président, et nous, au milieu,
Nous, au milieu, on paye, on subit la guerre en Ukraine, on subit l'inflation, tout va bien, les Français vont continuer leur petite vie. Mais en fait, Emmanuel Macron, il prend une leçon qui s'appelle la démocratie. C'est difficile pour un technocrate, parce que c'est un technocrate. Alors, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire par là. C'est quelqu'un qui vient de la haute fonction publique, qui a un paradigme établi et qu'il doit l'appliquer. La fédéralisation européenne, la privatisation de tout ce qui est encore du secteur public, de privatiser nos retraites. Hein. Je vous rappelle quand même que ça a été l'un de ses premiers engagements quand il est arrivé président de la République. Sauf qu'il s'est confronté au réel, c'est que le peuple français est un peuple politique et que c'est un peuple qui ne se laisse pas faire. Et il a fait le choix de ne pas confier la France, c'est ça. Il a fait le choix de ne pas confier la France à la famille Le Pen. Par contre, il fait le choix de ne pas vouloir le programme de monsieur Macron. Le problème, c'est que Emmanuel Macron doit le comprendre maintenant. Il doit être en capacité d'y répondre sur un plan politique. Et je ne suis pas certain que celui qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui a participé notamment à la vente d'Alstom à General Electric, qui a ensuite été ministre de l'économie, qui a quand même assez complexifié notre administration et en tout cas notre droit, sera en capacité demain de comprendre qu'il a affaire à des politiques, qu'il doit débattre sur le plan politique, qu'il doit exposer sa politique et qu'il doit comprendre aussi les oppositions.
Donc on vous l'a main tendue et mornée parce que de fait,
c'est
de
la communication. Le problème, c'est que là, il y a un problème de langage. C'est que vous avez un technocrate qui fait de la communication fondée sur des sondages et des conseils. On les connaît, on a eu des scandales avec McKinsey. En face de personnalités politiques, vous allez avoir en face de vous un Mélenchon avec un groupe qui a des convictions politiques, le groupe de Marine Le Pen qui a ses convictions politiques, notamment sur l'Europe, etc. Et lui va se retrouver en face d'eux et ils ne vont pas parler le même langage. Donc oui, il y a une instabilité qui va s'installer. Moi, j'ai été très inquiet par ces 8 minutes de néant parce qu'en fait, il ne nous a rien dit, sauf qu'il continuerait la même ligne.
On a posé la question simplement, parce qu'il y avait combien de millions de Français d'ailleurs hier devant leur...
10 millions. Beaucoup moins que d'habitude.
Ce qui est très faible,
quasiment divisé par deux par rapport à d'autres allocutions, 40% de moins par rapport à des allocutions normales et divisé par deux par rapport, même plus que divisé par deux par rapport aux allocutions sur la Covid ou la guerre en Ukraine.
D'accord. Alors ce n'est pas un sondage, c'est une question sur les réseaux sociaux. Avez-vous été convaincu? Bon, je crois que tout le monde se doute de la réponse. Regardez. Ah, il va arriver. D'ailleurs, moi, j'aurais posé une autre question. Ouais. À quoi ça a servi?
À rien.
Non.
Ça a servi.
Ne non, soyez pas
mais si, ça a servi à rien. Parce que finalement, il a donné du crédit à son opposition et puis à nous, commentateurs, d'aller dire qu'il n'avait pas tiré les leçons de cette défaite aux élections législatives.
Je rappelle que c'est une question. Réseaux sociaux, ce n'est pas un sondage. Mais enfin, quand même, c'est toujours une tendance.
Et même ce qui est terrible aussi pour lui, c'est que la presse quotidienne régionale, la PQR, comme on dit, qui habituellement... plutôt moins
factuel,
qui est moins rude moins ce matin et d'une rudesse terrible pour lui. Tous les journaux, La Voix du Nord, etc.
Donc, on va élargir le débat.
Dans le réel.
Ouais. Oui, l'état de notre démocratie. Mais d'abord, c'est News Info, les titres de l'actualité.
Qu'il y a trop d'immigration en France, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un pourcentage qui monte à 70% chez les plus de 50 ans. Et cette idée semble trouver des partisans à gauche. 4 sur 10 considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Pour tous les candidats malheureux de Parcoursup, la phase complémentaire débute aujourd'hui. Les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux s'ils n'ont pas encore trouvé de formation correspondant à leur recherche. Plus de 5300 formations sont proposées. Enfin, c'est une conséquence de la baisse de livraison de gaz russe. L'Allemagne active aujourd'hui le deuxième niveau d'alerte de son plan d'urgence afin de garantir son approvisionnement en gaz. Nous sommes dans une crise gazière, a déclaré le ministre allemand de l'économie.
Oui, la période est instable, oui, la période est inédite, mais si on allait plus loin et qu'on déterrait un petit peu les racines de ce qui ne va pas dans notre système, est-il arrivé à bout de souffle? En tous les cas, ça fait des années qu'un certain Michel Onfray le dit, l'écrit, parfois il est moqué, caricaturé. Alors qu'a-t-il pensé de l'intervention hier d'Emmanuel Macron? On vous a écouté, messieurs, je lui ai posé la question ce matin sur Europe 1, voici sa réponse.
Enfin, être étonné, c'est une façon de parler, parce que je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections, le premier mandat, et il n'a rien fait. À chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Tous ces gens-là ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de premier ministre, soit il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les possibilités offertes par la Constitution. Tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, depuis le référendum de 2005, je perds l'élection, je reste. Et je perds toutes les élections, je reste à chaque fois.
Raphaël Saint-Ville, ce que dit Michel Onfray, c'est tout change pour que rien ne change. C'est l'illusion du changement. Attention, c'est inquiétant, parce que si la mécanique tourne dans le vide, c'est-à-dire que tout est arrivé.
Non, mais je pense que Michel Onfray pointe un certain nombre de problèmes et de difficultés. Mais d'une certaine manière, si on revient au fondement de ce qui explique l'espèce de période illisible qui nous est proposée aujourd'hui, c'est que c'était déjà le cas en 2017. Emmanuel Macron a été élu sur un programme très évanescent, profitant de l'affaire Fillon. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est également la même chose, finalement, en 2022, où il a été élu sur le mot « le chaos ». Et d'une certaine manière, il en fait toujours appel au même réflexe. C'est-à-dire, il en fait appel au cercle de la raison, mais avec des stimuli de plus en plus déraisonnables. C'est-à-dire que, mis à part cette conviction européenne chevillée au corps et qu'il partage avec un certain nombre de personnalités de droite et de gauche, et qu'on pourrait appeler, et c'est Michel Onfray qui a cette expression, du parti maastrichtien, c'est leur programme. Mais pour le reste, tout est extrêmement flou. Et donc c'est pour ça qu'il exclut d'emblée, alors même qu'il veut réformer tout un champ du spectre politique, plus de quasiment la majorité, 45%, qu'il s'agisse de la NUPES ou du Rassemblement national, qui ne pensent pas comme lui sur ces sujets.
C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'a pas de projet à raison, mais vous dites sur l'aspect européen, il l'a.
Oui, oui.
Ça, sa conviction, sa cohérence, elle est faite. C'est souveraineté européenne contre souveraineté nationale.
C'est même le paradoxe, c'est qu'il a une conviction européenne extrêmement forte, mais celle des Français, alors même que une majorité de Français l'ont élu, sur ces questions-là, sont beaucoup plus partagées. Et donc, il a été élu, du Servinière, pour de mauvaises raisons. Toujours la même chose. C'est parce qu'il y a l'épouvantail Marine Le Pen, et puis, pour les législatives, c'était l'épouvantail Mélenchon. Mais le programme qu'il défend, finalement, ne lui permet pas. Il n'a pas été élu pour ça.
Bon, alors, qu'est-ce qui reste? La personnalité.
Dans la société.
D'accord. Alors, est-ce que lui, est-ce qu'il peut société. Changer? Est-ce qu'il est homme capable de changer, de mettre le logiciel totalement
obligé,
à zéro?
Sonia, il va être obligé. Ouais. Là, hier soir, regardez.
Qu'est-ce que vous avez vu hier?
Très faible. Aujourd'hui, personne, même mais Olivia Grégoire, rame.
Moi, je ne crois pas être obligé, contraint à changer. C'est quand on change.
À un moment donné, le pays va bien devoir être gouverné. Donc, à un moment donné, il va bien falloir prendre projet de loi par projet de loi.
Il peut commencer par
le projet de loi pour pouvoir d'achat, et puis il y a discussion.
C'est plus loin, là.
Mais en fait, le jeu des institutions fait que. Il va changer forcément. Il est président de la République. En dehors d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, le président de la République, qui n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, n'a plus le pouvoir. Le pouvoir, il a pris son petit baluchon, il a traversé la Seine et est passé de l'Élysée au Palais Bourbon. Donc ça, il est obligé d'en tirer les leçons.
Vous êtes sûr que le pouvoir est au Palais Bourbon, vu que toutes les oppositions... Attention, parce que...
Ben, il est peut-être noyé dans la Seine. Et ça peut être un problème de sclérose de notre pays. C'est-à-dire qu'on soit incapable d'avoir un gouvernement et de pouvoir le diriger. Ce qui pourrait conduire à une dissolution d'ici 5-6 mois. Sauf à ce que le Parlement retrouve son ADN sous la 4e République. C'est-à-dire, sous la 4e République, on avait une vraie démocratie parlementaire. Alors, elle conduisait à des instabilités, mais on a eu des très belles lois aussi. Peut-être qu'on aura cela. On ne sait pas. C'est un petit peu tôt pour en parler. Mais en tout cas, pour le moment, Emmanuel Macron doit comprendre qu'il n'a plus le pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental.
Et s'il veut survivre dans ce dispositif, il faut qu'il ait un ou une première ministre politique pour gérer cette dynamique.
Mais écoutez, vous dites qu'il faut, mais moi je vous dis aller dans la tête de quelqu'un qui est sûr de son fait et qui, malgré les événements, vous dit « Mais oui, non, mais on ne change pas si facilement. »
Allez, imaginons Sonia qui est 15 jours, 3 semaines, 1 mois de crise politique comme ça. À un moment donné, il y a juste un truc qui s'appelle les Françaises et les Français.
Mais si vous répolinez, vous repeignez juste...
Ça me paraît compliqué, le répolinage.
Non, vous soulevez un point très important, c'est qu'en effet, dans l'imaginaire collectif en France, la 4e République a mauvaise presse. Elle est associée à une forme de paralysie permanente. Elle est tombée pourquoi, la 4e République? Pour la guerre d'Algérie, qui était à l'époque perçue comme une guerre civile, pas comme une guerre extérieure. C'était normal d'imaginer à ce moment-là qu'il y avait un besoin de verticalité, d'avoir un seul homme qui prenne toutes les décisions parce qu'il fallait aller vite, parce qu'il fallait ne pas perdre du temps, etc. Mais dans les enjeux contemporains, les grands enjeux, la question sociale, les questions géopolitiques, la question climatique et d'autres, est-ce qu'on a besoin de la verticalité de 1958? Pour ma part, je ne pense pas. Et je pense en effet qu'un retour à un régime plus parlementaire, c'est-à-dire en fait plus représentatif, est une excellente nouvelle. Parce que
donc
ça permet...
le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Alors, ça, c'est la formule de la démocratie. Comme on sait, elle est impossible à atteindre de manière parfaite. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la
démocratie. Certains intellectuels, comme Bernard-Henri Lévy ou d'autres, en Comte Sponville, vous dites « Attention, le peuple peut errer et nous mener dans l'abîme. »
C'est pour ça que c'est un système représentatif, ça fait un filtre.
Exactement. Ah, oui. Et ce qui fait l'état de droit, c'est que le souverain n'est jamais totalement souverain, quel qu'il soit. Même si c'est le peuple, il y a toujours des contre-pouvoirs, il y a toujours un conseil constitutionnel, des choses de cette nature. Mais ça, c'est une belle nouvelle.
Le droit encadre le peuple, d'une certaine façon. Mmh. Mais il ne faut pas qu'il entrave le peuple. C'est toujours cet équilibre-là qu'il faut trouver.
Et la représentativité, vous parlez du Premier ministre ou de la Première ministre. Je veux dire, moi je dis Madame le Premier ministre, ou voilà, c'est plus respecte la langue française. Alors, on va écouter de nouveau Michel Onfray. Lui, il dit que si on tient vraiment compte des résultats de dimanche, et j'aimerais vraiment avoir votre réponse, qui pourrait être le Premier ministre ? Madame Marine Le Pen. Écoutons-le.
Mais la Ve République n'aurait pas permis que le chef de l'État puisse avoir un défaut de majorité, parce qu'il aurait fallu, soit pour rester gaulliste, que Macron démissionne lui-même, remette en jeu son mandat, soit qu'il change complètement le chef de l'État, le chef du gouvernement, en disant, bon ben voilà, Madame Borne me présente cette démission, et bien sûr, je l'accepte, et je fais un gouvernement qui est en relation avec ce que le peuple me fait savoir avec les urnes. Donc je nomme Marine Le Pen Premier ministre. Ça me paraît évident.
En le disant, vous savez que c'est impossible.
Ben bien sûr que c'est possible. Ce sont ce que les institutions exigent. Ce que les institutions demandent, ça veut dire que si c'est impossible, si vous me dites que c'est impossible, ça veut dire qu'on a avalisé le fait que nous n'étions plus en démocratie. Si effectivement, parce qu'elle est avant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, donc...
Non, là, pardon, par rapport à ça.
Attendez, Philippe, d'abord, Raphaël Saint-Ville, je viens vers vous. Pourquoi
Oui, mais je pense que c'est d'abord une provocation. C'est-à-dire que Michel Onfray, voulant appuyer là où ça fait mal, et pour montrer finalement la fragilité, voire l'évanescence du pouvoir, et mettre en exergue la nouvelle richesse de cette Assemblée, avec effectivement un parti, le Rassemblement National, qui en nombre de députés est le premier parti d'opposition. Mais c'est vrai que dans les grands ensembles, la NUPES est plus conséquente. Mais quand bien même, il n'est pas prévu dans les institutions une cohabitation lorsqu'on a une majorité relative. Après, l'habileté d'Emmanuel Macron serait peut-être de prendre en compte cette majorité très, très composite et de s'appuyer sur telle ou telle figure d'un des partis d'opposition pour peut-être composer. Mais c'est autre chose. C'est autre chose.
La le pause, premier... et comme on a très envie d'écouter votre analyse, c'est juste après la pause, et évidemment celle de Maxime Thibault, Nathan Devers, et on continue tous ensemble le débat. Quelle langue, quel teasing. On revient à la langue française.
Les foules sont en feu, en délire.
On ne raconte pas. À tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite du débat dans quelques instants. Tout d'abord, un rappel des titres, c'est CNews Info.
Journée très importante pour l'Ukraine. Le destin du pays se joue à Bruxelles. Les 27 se penchent aujourd'hui sur sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Une étape hautement symbolique, près de 4 mois après son invasion par l'armée russe. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record selon le PDG Jean-Pierre Farandou. Les trains sont selon lui complets les jours de grand départ, mais il reste des places en dehors de ces périodes. Enfin, Zinedine Zidane fête ses 50 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, nos confrères de l'équipe lui consacrent une édition spéciale. Dans cet entretien, le Ballon d'Or 98 révèle que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France. Au sujet d'entraîner le PSG, même si la piste se refroidit pour le moment, Zidane déclare « Il ne faut jamais dire jamais ».
Jamais dire jamais. Et en politique, ça vaut aussi. Alors, ben justement, jamais dire jamais à l'entrée peut-être à la nomination d'un Premier ministre totalement inattendu pour Emmanuel Macron. Ça n'en prend pas le chemin, disons-le. On vient d'entendre juste avant la pause Michel Onfray, provocateur, parlant de Marine Le Pen, Premier ministre. Non, ce n'est pas envisageable.
Non, parce qu'il y a deux choses dans cette affaire. La première, c'est que le premier groupe à l'Assemblée nationale, quoi qu'on en pense, c'est Ensemble. C'est les amis d'Emmanuel Macron. Donc s'il prend un Premier ministre, s'il choisit le groupe majoritaire, enfin le plus important, pas majoritaire, c'est ses amis. Bien, le deuxième, c'est la NUPES, et le troisième, c'est effectivement Marine Le Pen. Donc il n'est pas anormal qu'il choisisse ça. Après, il pourrait faire un choix totalement différent, ce qu'a fait Gérald de Gaulle en 1962, où il nomme Georges Pompidou, qui était son directeur de cabinet, qui était totalement hors du circuit politique, en tout cas dans les appareils politiques, etc., totalement inconnu des Françaises et des Français, et il nomme en fait son directeur de cabinet comme Premier ministre pour d'ailleurs marquer une rupture en indiquant maintenant c'est moi qui dirige.
Bah, et voilà. Fait, bon. Avec Jean Castex, donc, ça n'a pas fonctionné. Bah,
voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, vu la configuration, honnêtement, et j'ai pas d'action chez lui, mais quelqu'un comme François Bayrou, vous voyez, qui est un politique, qui est dans une position centriste, non, pourrait essayer de négocier.
Hein, parce que sortons de la politique politique. Non, mais... Là, vous nous replongez.
Non, je vous replonge pas. La difficulté, c'est que si on se dit que le pouvoir est au Parlement, il faut avoir une négociation. Texte par texte,
c'est une vraie question.
Avec les uns et les autres. Autrement, le système ne va pas avancer.
Qui est le premier opposant à Emmanuel Macron? On va écouter de nouveau Michel Onfray, mais il dénonce, et je voudrais avoir vos avis respectifs, il dénonce une fable. Une fable qui est racontée depuis des semaines, des jours dans les médias. La fable consistant à dire que Jean-Luc Mélenchon est le premier opposant politique. D'ailleurs, hier, c'était assez intéressant, édifiant de constater que le premier habilement qui a pris la parole après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui a surgi sur les antennes des chaînes d'information continue, c'est
Jean-Luc Mélenchon.
Voilà. Écoutons Michel Onfray à ce sujet.
Il faut vraiment chercher pour savoir combien ont fait les socialistes, combien ont fait les communistes, combien ont fait les écologistes, combien ont fait les gens de la France insoumise, parce qu'évidemment, on préfère faire un grand bloc pour dire que Jean-Luc Mélenchon est devant Marine Le Pen. Non, il a 5 députés de moins que Marine
qui
Le Pen.
Qui on préfère quand vous dites le
les
on
médias,
c'est
tous
qui
les médias qui nous ont fait savoir. Les
on a été complaisants vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon.
Les médias qui nous disent que l'information n'est pas la moitié des gens qui ne vont pas voter. Or, c'est ça l'information. Et premier mensonge. Et deuxième mensonge, nous dire effectivement que la NUPES est en tête et que Jean-Luc Mélenchon est donc en tête. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en tête. C'est-à-dire, les premiers, ce sont les macroniens, mais ça ne suffit pas, ils n'ont pas la majorité. Les premiers opposants, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est la réalité.
Non, là, le désaccord que j'ai avec Michel Onfray là-dessus, c'est que je pense que ce n'est pas une question de chiffres, ni de nombres. C'est qu'en l'occurrence, cette élection législative, sans Jean-Luc Mélenchon, sans ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, on en aurait beaucoup moins parlé, c'est-à-dire que c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a dynamisé l'élection législative, sans faire de politique fiction, mais peut-être que sans tout ce qui s'est passé, tout cet engouement qu'il a créé avec cette
porte fermée. Nathan, ça vaut alors pour Éric Zemmour, il a dynamisé la campagne présidentielle et pourtant il a perdu. Bah, Jean-Luc Mélenchon aussi.
Il n'est pas premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas atteint son objectif, mais il fait plus que doubler.
C'est pas celui qui dynamite, qui fait turbuler le système.
Les dynamiques en politique, ça compte, Sonia.
Attendez,
mais quand elles sont renforcées par un écho médiatique. Ça peut changer la donne. Et effectivement, c'est ce que souligne Michel Onfray, c'est que effectivement, les médias, dans leur immense majorité, ont donné du crédit, ont pris pour argent comptant la fable inventée par Jean-Luc Mélenchon consistant à dire. C'est son talent, oui, c'est sa force.
Il a raconté une belle histoire et tout le monde a cru la belle histoire. C'est la belle histoire, et puis
il faut aussi ajouter l'espèce de bienveillance presque automatique de la presse s'agissant de Jean-Luc Mélenchon et alors même qu'il profère des outrances, qu'il est injurieux à l'égard, je pense notamment à l'institution de la police, finalement il y a aussi un grand silence médiatique qui serait accablant si Marine Le Pen avait tenu ces mêmes propos. Donc il y a bien évidemment quelque chose qui doit interroger notamment les médias.
Nathan,
oui, le coup de force qui a été celui quand même de Jean-Luc Mélenchon, c'est une sorte de fable performative de dire on va voter pour un Premier ministre, ce qui n'était pas dans l'esprit actuel de la Constitution. Et c'est vrai qu'à partir de cette fable, en créant et en suscitant un engouement qui était en quelque sorte anormal, en tout cas pas observé dans des législatives juste après des élections présidentielles où un président est réélu, c'était pas prévu. Et si vous voulez, il a créé une anomalie pendant cette élection. Pour ma part, je pense même, c'est une hypothèse, hein, mais que le score élevé de Marine Le Pen à ces législatives est dû au fait qu'elle n'était pas au cœur de l'attention. Et que comme elle occupait le second plan des débats politiques, elle a fait un bon score. En général, d'ailleurs, on observe qu'elle monte dans les sondages ou dans les élections quand on ne parle pas d'elle et quand elle se fait invisible. Et plus elle devient visible, et plus elle baisse.
Quand elle n'a pas un traitement inéquitable. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça a été de dire tous les jours, chaque minute, sur les antennes, Marine Le Pen est d'extrême droite. Il n'y a eu aucun débat de fond. L'Élysée voulait que Marine Le Pen soit désignée comme d'extrême droite. 80% de la presse l'a désignée comme d'extrême droite. Et il y a sur CNews où on a pu avoir un petit peu de débat où le propos n'était pas extrême droite. Et c'est vrai que Marine Le Pen, elle est arrivée à faire son chemin. Mais il y a quand même... la presse audiovisuelle surtout. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est les reports de voix au deuxième tour. Et une majorité d'électeurs ensemble ont préféré un candidat RN à un candidat NUP au deuxième tour. Ce qui fait comprendre à Emmanuel Macron qu'il a plus de chances de travailler avec le RN que de travailler avec NUP. Et NUP, en plus, qui est sur des positions avec des députés qui sont quand même ultra clivantes. Avec des députés ultra clivants. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'on vous explique que le wokisme, c'est très bien, qu'on vous explique qu'il y a un racialisme qu'il faut installer, qu'il y a 10 des races différentes, etc., c'est quand même ultra gênant. Et ce n'est pas la position, en tout cas, des Français. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, en réalité, il devra trouver un juste milieu entre Ensemble et le RN. Et un Olivier Marleix, qui a été, qui a été désigné président du groupe LR, peut être un très bon point, parce qu'il est assez proche des RN et il est assez proche
de... Ce qui m'intéressait, là, c'est l'effet de... C'est la déformation du miroir, en réalité, de l'image que l'on donne. C'est vrai, Jean-Luc Mélenchon, et on ne remet pas en cause, c'est une forme de... C'est une moindre défaite, c'est une victoire relative, on va dire. Il n'est pas député, encore moins Premier ministre, il n'est pas premier opposant, et pourtant, la mélodie, le bruit est encore là, comme quoi c'est lui qui est installé.
Oui, parce qu'il a le talent de comprendre comment fonctionne le système médiatique.
Oui, mais c'est à nous de traduire fidèlement la réalité, mais, quand même, du
paysage. Bien sûr, mais enfin, ça, c'est le débat, c'est le débat démocratique. Mais
j'essaie de vous faire dire pourquoi, selon vous, il y a cette complaisance. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la complaisance par rapport à ça. On est dans une société clivée. Je veux dire, Valeurs Actuelles n'est pas complaisant avec, Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez remarqué que Valeurs Actuelles, ce n'est pas tout l'espace médiatique. Mais,
derrière, après, les Français ont leur propre appréciation. On évoquait tout à l'heure, les Français sont un peuple politique.
Mais vous noyez le poisson.
Non, je ne noie pas le poisson. Je pense que les gens... Tout le monde sait tout. Tout le monde sait tout aujourd'hui. Tout le monde sait tout. Voilà. Donc, là, j'ai encore été interpellé dans la rue il y a deux jours. Des gens que je suis, ils me font une analyse politique. Ils me disent, oui, il va se passer ici. Comment vous percevez ça? Vous avez vu l'analyse?
Voilà,
la moitié des Français pourraient être autour de la table pour faire des analyses politiques par rapport à ça. Comment?
Ils vous reconnaissent dans la rue?
Je suis argentoïde, donc ils me reconnaissent parce que j'étais
vous allez dire que c'est l'effet CNews.
Donc, voilà. Mais par contre.
Ils vous disent pas que vous parlez beaucoup trop, que vous laissez pas la parole.
Non, ils me disent, c'est bien, Philippe, tu t'es pas laissé faire. Voilà. Sonia, t'as maltraité. Ils me disent, voilà.
Ils aiment bien notre duo, je crois.
C'est vrai en plus.
Quand même une forme de complaisance.
Il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'un certain nombre de propos qui seraient tenus et qu'on mettrait dans la bouche de Marine Le Pen ou de n'importe quel responsable de l'opposition de droite seraient jugés comme scandaleuses et on demanderait, il y aurait peut-être même des procès. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui se permet ce genre de licence, ça ne fait quasiment aucun écho, personne ne le reprend lorsqu'il est... Mis à part certains, bien évidemment, il ne faut pas être caricatural non plus. Mais en tout cas, j'ai noté le silence émiatique et le silence de ses alliés de la NUPES lorsqu'il a pu attaquer la police comme il l'a fait.
Oui, mais c'est une victime. Donc à partir de ce moment-là, une victime ne peut pas être un prévenu, ne peut pas être accusé. C'est un peu quand même le problème chez NUPES, chez NUP, c'est qu'ils peuvent tout dire. N'importe quoi, ils peuvent tenir des propos. Enfin, Rachel Keke, il y a quand même des choses qui sortent en ce moment sur cette personne, sur des propos qu'elle a tenus par le passé. Mais c'est pas grave parce que c'est une victime.
Elle dit qu'elle a changé.
Elle a changé. Mais par contre, de l'autre côté du paysage politique, vous n'avez pas le droit.
De position à l'autre extrême du paysage politique.
Qui sont à proprement scandaleuses. Enfin, vous avez des positions.
Soutien à Fayez Assad, dirigeant de la Syrie.
À Bachar al-Assad.
On a eu l'affaire Tahabouaf aussi. Heureusement, ça a été tellement puissant qu'il a été obligé de s'en débarrasser.
Vous avez la même chose de l'autre côté concernant Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen, elle a changé. Vous voyez, donc,
ce que j'explique, c'est que les chars d'assaut sont sortis quand c'est à droite, qu'il y a quelques impairs. Par contre, quand c'est à gauche.
C'est pas vrai, vous pouvez pas dire ça, le front. Honnêtement, le front républicain, il a sauté. La réalité, la difficulté politique pour nous aujourd'hui, pour la gauche, c'est que le Front républicain a sauté. Vous imaginez pas, hier soir, monsieur Larcher.
Le Front républicain, c'était contre NUP. Le vrai problème aujourd'hui, c'était NUP.
Donc le Front républicain qui existait contre Marine Le Pen, il a sauté. Quand vous voyez hier le président du Sénat, Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État, qui dit... Oui, bah si le Rassemblement National a la commission des finances, bien.
Philippe Doucet, Marine Le Pen aurait dit la moitié.
Il y a un an, ça n'existe pas.
Marine Le Pen aurait dit, et quelles que soient ses positions, n'est pas en train ni de défendre ni de dénoncer, aurait dit la moitié du quart de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ce serait la révolution les médias.
Paradoxalement, Jean-Luc Mélenchon, ma conviction personnelle, c'est que Jean-Luc Mélenchon a aidé de fait Marine Le Pen. Il l'a notabilisé. Il l'a notabilisé. Marine Le Pen a pu remercier, a pu envoyer des fleurs à Zemmour.
Qui apparaît
comme un paratonnerre. Oui. Et là, sur la police, l'histoire de la police, il l'a notabilisé. Regardez même les photos.
La pile du racel.
Regardez même les photos.
Ça marche pas.
Non, mais regardez même les photos de l'Assemblée nationale. Alors, elle a dit, vous mettez le costume, vous bougez pas une oreille, vous faites sobre. Voilà, la photo de la France insoumise, c'est pas la même image. Il joue la notabilisation.
Philippe Doucet.
Oui, patron.
J'appuie. Non. Quand est-ce que vous avez passé votre bac? Vous vous en souvenez? Oui, il y a quelques... Hier. Grégé de philosophie.
2014.
Ah, quand même, là, on entend dire quand même.
35 ans.
95 ou 96, je ne sais plus.
Oui. Non, 1800.
Non. Oh, c'est moche. C'est moche. Oh, c'est très moche, Julia.
Alors, non, mais c'est sérieux.
Vous êtes témoin comment je suis maltraité. Oh là là. Il va y avoir un comité de défense de Philippe Doucet sans
ces les victimes, on les connaît. Merci. Un extrait de son roman, Jour de colère, proposé au bac français. Un extrait qui n'a pas du tout plu au bachelier, car trop compliqué. Et s'en est suivi une avalanche de réactions haineuses sur les réseaux sociaux. Un vrai harcèlement. Mais tellement révélateur et inquiétant. Alors, il s'agit de l'écrivaine Sylvie Germain qui a subi tout cela. On va voir tout à l'heure l'extrait, mais on va poser le contexte avec Sybille Delettre.
C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman Jour de colère, l'autrice Sylvie Germain y décrit 9 frères qui vivent dans la forêt.
Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient faits à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté.
Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dite inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
Sylvie Germain n'est pas la première à déclencher la colère des lycéens.
Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet, qui avait le malheur de parler du Tigre et de l'Euphrate, et où certains élèves n'avaient pas compris que le Tigre était un fleuve.
Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
Alors c'est une affaire que je trouve très... Elle est importante. La question, est-ce que c'est un exutoire immature ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça, Maxime Thiébaud?
L'ignorance toujours mène à la servitude, disait Condorcet. Et la première des servitudes, c'est la haine. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui sont censés penser, parce que c'est le but du baccalauréat, c'est de voir si vous avez un savoir suffisant pour pouvoir raisonner un minimum... Être en capacité d'aller ensuite dans des études supérieures, on va vous demander d'avoir davantage de connaissances et de raisonner davantage pour pouvoir être les cadres de la nation. Et bien là, on se rend compte qu'à l'échelon bac, eh bien, on a des gens qui sont des jeunes qui sont convaincus que les positions qui leur sont soumises sont des positions arrêtées, qui expriment forcément une volonté politique, qu'il faut l'attaquer en dehors de toute raison critique. Et donc oui, je pense que c'est une certaine forme d'ensauvagement qui, pour le coup, s'est exprimée à travers le bac.
De quoi est-ce le symptôme pour vous ?
Écoutez, quand on est écrivain, je pense qu'il y a deux réactions face à ça. La première, c'est une sidération de se dire c'est quand même incroyable de voir cette haine du livre. Et ce que veut dire la haine du livre dans une société, c'est très violent. Et une deuxième réaction, un peu plus refroidie, disons. Vous savez, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, il dit « ceci tuera cela », en parlant de l'invention du livre, qui remplace le vitrail des cathédrales, et donc il y a une transformation technologique. Là, nous sommes dans le « ceci tuera cela », l'invention des écrans, du réseau social, qui remplace finalement l'objet livre. Et je pense que même d'un point de vue littéraire, tout l'enjeu des prochaines décennies, littérairement, c'est d'essayer d'empêcher cela, et de réconcilier les livres et les écrans. Je ne vous cache pas qu'on est mal parti, mais en tout cas, je pense que c'est l'enjeu.
Je suis d'accord. Il faudra réconcilier une partie de ces gens avec la civilisation, tout simplement. On va continuer à en parler, parce qu'on va parler de cet effet de meute virtuelle également. Mais tout d'abord, un rapide rappel des titres.
En Chine, des pluies torrentielles jamais vues depuis 60 ans ont touché les régions du sud et de l'est du pays, entraînant d'importantes inondations et des glissements de terrain. Des centaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. La ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, sera la candidate de la majorité à la présidence de l'Assemblée nationale mardi prochain. Ce serait une première en France qu'une femme accède à la fonction de présidente de l'Assemblée. Enfin, réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques du parc national des Calanques. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour cet été. Une mesure pour protéger ces criques de la surfréquentation touristique.
Je reviens à ce qui s'est passé autour de l'écrivain Sylvie Germain, d'un excellent livre, un excellent roman, par ailleurs. Et tout est parti de l'incompréhension, en tous les cas, des bacheliers, des élèves, qui ont vu une complexité et qui l'ont véritablement lynché virtuellement, évidemment, sur les réseaux sociaux. Moi, je m'intéresse toujours, Raphaël Samuel, à cet effet de meute virtuelle, à ce déchaînement d'insultes. Enfin, il y a révélateur du fait qu'il n'y a pas de limite. Je suis allée voir les réactions. Ce qui est dit, c'est vertigineux, c'est abyssal.
Oui, c'est. Mais alors, je ne sais pas si vous avez lu aussi la réponse que Sylvie Germain a faite à ses élèves. Elle souligne finalement, elle essaye d'analyser ce déchaînement de violence qu'elle subit bien malgré elle. Et elle souligne notamment le fait que c'est une génération qui n'a plus le culte de l'effort. Il faudrait que tout soit prémâché. Ils se contentent de 300, 400, 500 mots pour évoluer dans la société. Et finalement, justement, cette raréfaction du vocabulaire qui fait que ces élèves aujourd'hui n'arrivent plus à comprendre un texte comme celui de Sylvie Germain, conduit à la violence. Je crois que c'était Alain Bendelila qui disait que la violence est une langue illettrée. C'est-à-dire que lorsqu'on se contente de 300, 400, 500 mots pour évoluer dans la société, qu'on n'a plus ce nuancier à disposition pour décrire les émotions, on en arrive finalement à ces défoulements et cet effet de meute oui, absolument insupportable. Et il faut souligner que ce que subit Sylvie Germain, des élèves, non plus dans la filière générale, mais dans la filière technologique, il s'était également indigné de l'emploi du mot ludique dans un sujet. C'est la même chose, c'est l'absence de vocabulaire de ces jeunes qu'il faut aussi pouvoir interroger.
Bêtise, avec aussi la lâcheté quand même du phénomène de meute virtuelle, évidemment, parce que s'ils se trouvaient en face un jour, l'un d'entre eux, ou évidemment de l'écrivain, va savoir ce qu'il serait capable de dire en face, mais évidemment, anonymement, derrière l'écran, et avec tout le monde derrière, on y va. On lynche, on lâche.
Oui, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense que quelqu'un assume ses positions, parce qu'autrement, c'est facile. C'est-à-dire que tout le monde est caché, tout le monde a un déguisement, et puis on peut déverser des montagnes de haine, de bêtises, parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises là-dedans. Après, bon, et puis les réseaux sociaux, il y a un phénomène de loupe aussi. C'est-à-dire
qu'il
y a
pas l'arbre qui cache la forêt. Non, mais je le dis moi.
Mais non, mais derrière, je partage ça. Je pense qu'on est sur un changement.
D'insulter sur quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans,
oui, mais aujourd'hui, au-delà d'un écran. Moi, quand je suis sur le plateau, je me fais insulter aussi. Voilà, donc vous avez ces phénomènes-là. On peut être en désaccord. Voilà, je partage peu d'options avec Valeurs Actuelles, mais bon, on peut échanger par rapport à ça. Voilà, donc bon. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il y a un changement civilisationnel.
Là, il peut y avoir une bataille politique. Là, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. C'est sanctuarisé, c'est le savoir.
C'est aussi une logique aujourd'hui de la place du livre. Moi, je suis dans une génération qui chérit le livre. Mais aujourd'hui, même mes enfants, ils sont sur les écrans, mais ils apprennent plein de choses.
Mais même sans chérir le livre, il y a une question d'éducation. Mais c'est aussi simple que
d'accord,
ça.
D'accord, il y a une question d'éducation, mais derrière, on est sur un changement. Le livre a permis la diffusion de la Bible, alors qu'avant, il y avait des moines copistes. Et aujourd'hui, c'est les réseaux, c'est les vidéos qui changent le dispositif. On est sur... Je pense que... Je regarde les chiffres de diffusion des livres. Pour le moment, ça se stabilise, mais en même temps, il y a des générations entières qui ne lisent plus.
Non, mais très bien, ça n'a rien à voir avec ce sujet.
Mais si, parce que du coup, quand. En fait, le bac de français, ça les ennuie. Ils disent pourquoi vous nous obligez à lire Camus? Pourquoi vous nous obligez à lire Stendhal? Voilà, ça les ennuie.
Maxime Thiébaud.
Voilà, ça les ennuie. Ils veulent avoir le bac. Voilà.
Maxime Thiébaud.
Les sociétés.
Ils veulent avoir le bac. Déjà qu'on le prend comme ça, ils vont l'avoir.
99% de réussite.
Pas tout à fait.
Oui, oui. Il faut pas s'être réveillé le matin pour ne pas l'avoir. Les sociétés qui chérissent le livre et qui font l'éloge de l'écriture sont les sociétés qui réussissent. Les Romains ont réussi à leur époque parce qu'ils ont su exploiter le papyrus. L'Europe est devenue une puissance parce qu'il y a eu l'imprimerie de Gutenberg. Aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec ce que disait Nathan, c'est dans quelle mesure on va arriver à chérir l'écriture. Et l'écriture, c'est déjà passé par le savoir, c'est passé par la maîtrise de la langue française, de son vocabulaire, de sa grammaire, pour pouvoir ensuite comprendre et lire les belles lettres. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui n'ont même pas eu le minimum du savoir, qui passent un examen qui ne veut plus rien dire, parce que c'est pas lui qui vous permet d'avoir grand-chose. Après, vous passez dans les fourches codines de Parcoursup, et vous avez ces personnes-là qui sont amenées à juger dans l'ignorance. Et c'est là où on a un vrai drame et on a une décivilisation.
Une pause. Décivilisation, grand mot. Une pause. Alors, restez avec nous, parce que j'ai beaucoup de choses à vous soumettre dans la deuxième partie. On parlera d'un sondage qui ne va pas vous surprendre, mais vous allez voir que la sociologie des personnes interviewées va beaucoup faire vous faire réagir. On reviendra à la politique, parce que compromis pour combien de temps? Et je vous ferai également réagir à une réaction sur les réseaux sociaux qui m'a interpellée, celle d'Aurore Berger, qui dit historique. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme présidente du groupe LREM, parce qu'il pourrait y avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas un peu, le mot historique devient galvaudé? Est-ce que c'est véritablement ça le vrai sujet, même si on peut toujours s'en féliciter? La pause et on se retrouve. Suite de vos débats dans quelques instants, nous allons parler d'un sondage sur l'immigration et vous serez étonnés de la sociologie des interviewés. Nous parlerons aussi, nous poserons cette question, où sont les femmes? Eh bien, l'Assemblée nationale, vous le verrez, Aurore Berger estime que c'est historique. Elle, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, puis peut-être aussi une présidente à l'Assemblée nationale. Mais même si c'est historique, est-ce que c'est ça qui est le plus important à retenir? Nous posons la question, mais tout d'abord le journal. Et on a la chance d'avoir une femme. Et quelle femme? Bonjour à vous. Rebonjour, chère Nelly.
Vous êtes trop aimable. Je vous retourne le compliment, chère Sonia. Et effectivement, l'actualité nous conduit à nouveau, vous en doutez, à l'Assemblée nationale où l'élection des présidents de groupe se poursuit aujourd'hui. Bonjour, Reda Emrabit. Vous êtes d'ores et déjà sur place. Europe Écologie Les Verts vient d'opter, il y a quelques minutes, pour une coprésidence.
Effectivement, une coprésidence mixte avec d'un côté, donc chez les hommes, nommé Julien Bayou, figure majeure, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il sera coprésident aux côtés d'une inconnue du grand public, Cyrielle Chatrin. Elle a 34 ans, elle est députée de la seconde circonscription de l'Isère. Elle a repris une circonscription historiquement à gauche qui était passée sous le giron La République En Marche. Elle vient donc de remporter cette élection. Elle a déjà été assistante parlementaire durant de nombreuses années. Elle a une connaissance assez technique des dossiers. Il n'y a pas eu vraiment d'élection au sein du groupe écologiste, mais plutôt des accords, des nominations, notamment concernant Sandrine Rousseau, puisqu'a priori, la députée de Paris devrait être candidate à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. On s'est entendu du côté des Verts, ce qui n'est pas vraiment le cas de façon habituelle. Et puis, pour rappel, il y a eu aussi une autre élection, celle du groupe socialiste pour la présidence, avec Boris Vallaud, qui a été largement élu devant Jérôme Guedj et Guillaume Garot. Bref, les différentes composantes de la NUPES commencent à se mettre en place en termes de hiérarchie.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Reda Emrabit. On va revenir évidemment à l'allocution du président de la République hier à 20h. Emmanuel Macron qui assure vouloir bâtir, dit-il, des compromis avec ses opposants, mais qui leur laisse 48 heures pour lui donner une réponse. Proposition amèrement accueillie par les différentes formations politiques. Écoutez.
Ce n'est pas à l'opposition d'indiquer au président de la République les concessions qu'elle consent. C'est au président de la République, qui a perdu sa majorité absolue dimanche dernier, d'indiquer désormais sur quel point il est prêt à s'amender pour tenir compte du verdict des urnes et de l'expression démocratique.
Hier, il nous a interpellés en nous disant à quel compromis les groupes parlementaires sont prêts pour appliquer mon programme. D'abord, lui rappeler qu'il a été élu moins sur son programme que contre l'extrême droite et que nous avons voté à gauche pour lui. Il est donc d'abord de sa responsabilité de dire à quel compromis, lui, il est prêt.
L'actualité qui s'écrit aussi ce jeudi à Bruxelles avec un sommet des Balkans qui a eu lieu ce matin avant un Conseil européen qui, lui, débute cet après-midi. Bonjour Harold Diman, vous êtes d'ores et déjà sur place. Sommet crucial, on le rappelle, pour Kiev qui attend le feu vert pour sa candidature.
Absolument. Et la question aujourd'hui, ce matin, de l'admission des pays des Balkans est posée. Et la Bulgarie, pays membre de l'Union européenne, bloque l'accession de son voisin, la Macédoine du Nord, à cause d'un vieux contentieux. Tout ceci éclipsé par la guerre en Ukraine, on ne s'y attendait pas vraiment. Ainsi, les pays des Balkans, qui auraient dû rentrer tous ensemble dans l'Union européenne, sont bloqués. Alors, que faire de l'Ukraine et de la Moldavie? L'idée circule de faire passer ces deux pays devant les pays des Balkans. sur la voie de l'adhésion européenne. Ceci renforce la proposition d'Emmanuel Macron et d'autres d'en finir avec ce droit de blocage que pourrait détenir un seul pays membre, en l'occurrence la Bulgarie, sur des questions importantes. Et pour l'Ukraine, donc, c'est cet après-midi qu'on verra la question de plus près dans le Conseil européen.
On vous retrouvera bien sûr à cette occasion. Merci beaucoup d'ores et déjà pour toutes ces explications. Voilà, dans un instant, reprise du débat, évidemment avec Sonia. Avant cela, le sport.
Retrouvez la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibéo.com.
Malgré la beauté des paysages, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier ne sont pas venus au Kenya pour faire du tourisme, mais bien pour courir leur troisième rallye de la saison. Si lors du premier rendez-vous à Monte-Carlo, ils avaient pris respectivement les premières et deuxièmes places, en Afrique, ils s'attendent à une course plus compliquée.
C'est vrai que c'est un rallye très différent des autres, très cassant, très difficile, des spéciales étroites, bosselées, piégeuses, avec des gros changements d'adhérence.
Sur le shakedown, le nonuple champion du monde a réalisé le troisième temps, une seconde 8 derrière Owen Perra. Sur sa Toyota, Ogier a été un peu moins rapide. Cinquième temps pour le champion du monde en titre qui fait passer le plaisir avant la performance.
C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibéo.com.
La suite du débat, nous sommes toujours avec nos invités, Nathan Dever, Maxime Thiébaud, Raphaël Stainville et Najwa Alaïté va nous rejoindre dans quelques instants. Elle fait partie plutôt de la majorité, elle est avocate également. Je vais l'attendre parce que je voudrais parler d'un sujet qui concerne les femmes. Donc j'aimerais bien quand même qu'il y ait aussi une représentante sur ce plateau par rapport à ce qu'a dit, et vous le saurez tout à l'heure, Aurore Berger. Je trouve que c'est très symptomatique à la fois de cette majorité et du moment politique. Mais tout d'abord, l'immigration, c'est un sondage. Vous allez le voir, ce n'est pas une surprise, mais une confirmation. Alors que l'on disait que certains sujets comme l'immigration ou l'insécurité étaient relégués au second plan derrière les préoccupations tout à fait légitimes du pouvoir d'achat, eh bien on voit bien que dans les différentes enquêtes, non, la réalité est plus complexe, ça reste des sujets de préoccupation. On le voit tout de suite et après on va voir la sociologie des personnes interviewées. Regardez ce sujet.
À la question « Y a-t-il trop d'immigration en France ?», 65% des Français sondés répondent favorablement.
On a quasiment les deux tiers des Français qui pensent aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration en France et pour lesquels c'est un vrai sujet d'inquiétude. Ensuite, quand on creuse un petit peu par tous les sondages qu'on peut faire par ailleurs, on voit que parmi les enjeux qu'ils vont le plus associer à l'immigration aujourd'hui, c'est celui de l'islamisme radical.
Mes premiers points de clivage, ce grand écart entre les jeunes et les personnes plus âgées.
Plus on va être âgé et plus on va avoir ce sentiment, en fait, mais il n'en demeure pas moins, par exemple, que 40% des 18-24 ans sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
Plus surprenant, cette idée semble même trouver des partisans à gauche.
Les sympathisants de gauche sont 56% à ne pas partager cette opinion. Mais cela signifie quand même qu'on a quasiment plus de 4 sympathisants de gauche sur 10 qui sont aujourd'hui persuadés qu'il y a trop d'immigration en France.
Moins surprenant, à droite et à l'extrême droite, 94% des Français sondés considèrent qu'il y a trop d'immigration en France.
Alors, différence en fonction de l'âge des sondés, mais quant à la perception de l'immigration, mais vous avez vu, en fonction de l'appartenance politique, eh bien, les différences s'estompent. Ça vous surprend ?
Non. Non, ça ne me surprend pas. Vous savez, Michel Rocard avait dit « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et je pense que quand on est de gauche et qu'on est attaché aussi à la défense du social, à la défense du progrès, de sa vision de la société, on n'a pas forcément envie d'accueillir à la fois des gens qu'on ne pourra pas prendre en charge, premièrement, qui risquent de déstabiliser notre système social. Et puis sur un plan plus philosophique et culturel, on n'a pas aussi envie d'accueillir des gens qui viennent de cultures où la femme n'est pas l'égale de l'homme, où toutes les questions de conquête sur les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et je pense qu'il y a des gens de gauche qui disent aujourd'hui que pour protéger leur progrès, il faut aussi savoir se protéger du monde extérieur. C'est un peu comme disait l'auteur de Bray, Régis Debray, la frontière, c'est la peau sur le corps de la nation, ce qui lui permet de se protéger des nuisances extérieures. Et ce n'est pas problématique d'être une personne de gauche et de considérer que on ne peut pas accueillir tout le monde.
65% donc, selon ce sondage des Français, estiment qu'il y a, c'est ainsi que c'est dit, hein, trop d'immigration en France. Je fais souvent le parallèle, Nathan Dever, avec ce qui se passe au Danemark, avec ce qu'a dit la première ministre, plutôt d'ailleurs social-démocrate, il y a quelque temps, Il y avait eu beaucoup de réactions. Elle avait dit zéro immigration, c'est terminé. Cela menace le pacte social tel qu'il est. Quand vous le dites en France, c'est un déchaînement de tous les mots. Vous êtes fascisé, vous êtes extrémisé, vous êtes extrême-droitisé, zémorisé, tout ce que vous voulez. Alors qu'ailleurs, dans les pays européens, le débat se pose. Comment on l'explique ?
Je ne pense pas qu'il y ait de question qui soit de droite ou de gauche. Un thème comme l'immigration, en soi, est une question qui est neutre. Et ce qui est de droite ou de gauche, ce sont les réponses qu'on peut fournir à ce thème. Et je pense qu'il faudrait vraiment ne pas adopter cette vision de la politique qui consisterait à vouloir étiqueter les thèmes à la place des réponses, premièrement. Deuxièmement, sur l'immigration, qu'il y ait un débat. En effet, c'est un sujet majeur dans la vie d'un pays, dans la vie de la souveraineté d'un pays, qu'il y ait un débat sur l'immigration. C'est absolument nécessaire, comme tous les sujets. Je mettrais juste deux, puisque vous parliez du signifiant fasciste, etc., je mettrais deux, à mon avis, critères qui sont importants. Je ne sais pas si ça relève du fascisme, mais ne pas confondre immigration et droit d'asile, déjà, parce que ce sont deux choses très différentes, premièrement. Et deuxièmement, ne pas avoir un débat qui, si vous voulez, passe outre ou qui stigmatise des personnes humaines et qui en reste à la question structurelle de l'immigration.
Mais sur votre premier argument, tout en disant la réalité et être lucide sur un droit d'asile qui est totalement dévoyé. Maître Najwa Alaïté qui nous a rejoint. Merci à vous. Vice-président de Territoire de Progrès, toujours ?
Toujours.
Dans la majorité présidentielle. Nathan, on termine son argumentaire, je reviens vers vous.
Oui, c'est vrai que c'est le troisième aspect du débat. C'est y a quand même beaucoup de choses dans la loi qui ne sont pas nécessairement appliquées dans les faits, notamment la question des OQTF. Et juste une chose, si on en reste à la question, entre guillemets, philosophique, la vision idéologique qu'on peut avoir de l'immigration. Sans trop caricaturer, il y a deux grandes positions qui s'affrontent dans le débat public. L'une qui présente les frontières comme des murs, en quelque sorte, c'est-à-dire de dire zéro immigration, ce paradigme-là. Et l'une qui présente des frontières comme des fenêtres ouvertes, tout le monde rentre, tout le monde sort, etc.
L'Europe passe.
Pour ma part, j'ai tendance à dire que les frontières sont des portes. Et comme disait Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il faut pouvoir gérer cette vision-là.
Oui, mais alors vous ne répondez pas à la question. Est-ce que pour l'avoir trop ouverte, il faut la fermer ? Moi, c'est ça la question que je vous pose. Il faut trancher là sur votre.
Non, mais
c'est ça la question. Je le disais, 65%, là c'est un sondage, 65% des Français estiment qu'il y a trop d'immigration et on allait voir le profil des interviewés. Certains, une partie, viennent de la gauche maintenant qui n'ont plus tabou en réalité, ni de pudeur de gazelle si je puis dire, à dire cela. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Cette question, en effet, le même est de trop. Hein. Quand on est de gauche, oui, il faut s'intéresser à cette question-là. Ça ne doit pas être un sujet qui concerne uniquement la droite ou l'extrême droite. C'est une réalité, d'autant que moi, en tant que personne de gauche, quand je vois des familles sous des tentes à Paris, dans des conditions de vie indignes, des conditions d'hygiène, n'en parlons même pas, oui, ça m'interpelle. Et donc, il faut absolument traiter et apporter des réponses à cette immigration. J'aime à rappeler ce que disait Rocard, c'est on ne peut pas accueillir plutôt toute la misère du monde.
Qu'est-ce qui a changé depuis cette phrase de Rocard que tout le monde
dit ? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et pourquoi on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ? Parce que très attaché aux droits de l'homme, eh bien aussi, il faut que la France sache accueillir dans de bonnes conditions les personnes qui viennent en France.
En réalité, le clivage droite-gauche, il existe. Parce qu'en vous écoutant, quand vous dites, oui, il faut limiter, tenant compte du fait que la France ne peut plus accueillir dignement. Mais je suis sûre que si je pose la question à Raphaël Saint-Ville, je vais vous laisser répondre, vous vous dites, il faut stopper parce que ça peut changer l'histoire, parce qu'il peut y avoir, certains le disent, péril sur la civilisation, sur l'identité. C'est-à-dire que aux mêmes conséquences, vous n'avez pas les mêmes causes.
Mais vous avez raison. Et finalement, ce sondage, il souligne d'abord l'angoisse civilisationnelle qui étreint un certain nombre de Français. Et moi, ce qui me paraît encore plus important, même que le clivage politique est de moins en moins opérant sur ces questions-là, et on le voit lorsque un certain nombre de personnes à gauche traduisent également dans ce sondage leur angoisse civilisationnelle ou identitaire, c'est le clivage générationnel. Parce que lorsque les jeunes, finalement, se montrent moins inquiets à l'égard de cette immigration galopante, c'est d'abord parce qu'ils ont été nourris à un vivre-ensemblisme qui les a habitués à se dire que finalement c'était bien et tout ça. Mais c'est surtout le plus intéressant, c'est de voir à quel point finalement les plus âgés, aujourd'hui, ont pu voir combien la France a changé. Et Alors, on ne va pas faire de grands débats sur le grand remplacement, mais finalement, le grand remplacement, il se traduit aussi dans la perception que les plus âgés ont de l'immigration aujourd'hui. La France, bien évidemment qu'elle a changé à travers ces vagues successives qui se sont succédées. Et voilà, ça donne ces résultats, ça donne cette angoisse.
Vous direz vive la créolisation, et Éric Zemmour vous dit grand danger, grand remplacement.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'on ne peut pas nier que dans cette thématique-là, il y a ce volet civilisationnel, identitaire. Et je vous assure, pour faire un peu de droit des étrangères, vous avez des personnes qui sont profondément attachés, notamment je pense à une médecin qui était en première ligne pendant cette crise du Covid et qui souhaite obtenir la naturalisation française. Autant vous dire qu'elle connaît l'histoire de France de manière impressionnante. Donc vous avez des gens qui sont profondément attachés à l'histoire de France, etc. Donc certes, il y a ce sujet civilisationnel identitaire, mais on ne peut pas se limiter qu'à ça. Donc quand on dit il y a trop d'immigration, on ne peut pas dire oui, la réponse est entre les deux. Pourquoi ? Parce que à ce jour, on rencontre des problèmes de main-d'œuvre.
Mais bien sûr que le cas par cas soit maintenu, fort heureusement, c'est notre tradition. Mais la question n'est pas seulement, la question c'est de quelle Europe, parce que faut dire les choses, ça ne dépend plus beaucoup de la France. Et là, on peut dire que quand même, en grande partie, le pouvoir à Bruxelles. Vous entendrez notamment ce que dit Michel Onfray à ce sujet, mais est-ce qu'on a encore la capacité de décider de notre politique d'immigration ? Moi, je trouve que c'est une question importante.
Ben justement, en vous écoutant, je pense que peut-être que ce qui distinguerait une réponse de droite à la question de l'immigration et une réponse de gauche, c'est que bon, la réponse de droite va gérer le problème de l'immigration en France. Il me semble que la réponse de gauche, en tout cas, consiste à essayer de percevoir les causes de l'immigration. Je vais donner un seul exemple.
C'est 40 ans qu'on parle des causes. Je vais vous donner
un seul exemple sur un pays précis, l'Algérie. Sur l'immigration des Algériens en France aujourd'hui. Hein, je ne parle pas de celle des années 60 ou 70. Il y a quelques années, en même temps que les Gilets jaunes d'ailleurs, un mouvement social en Algérie, le IRAK, dont la première revendication des jeunes, c'était qu'ils disaient au pouvoir algérien « Nous ne voulons plus avoir comme seule perspective d'avenir d'immigrer en France ». Et vous voyez, à titre personnel, j'ai été très sensible aux revendications, et même d'ailleurs aux méthodes politiques de ce mouvement, mais aux revendications de cette jeunesse-là. Et on pourrait décliner sur les autres sujets. Il y aura demain une immigration climatique qui va être de plus en plus forte. Et donc, il me semble qu'il faut vraiment étendre le problème. Le problème n'est pas une fois que les gens ont immigré, mais qu'est-ce qui pousse des gens à changer leur pays ?
Oui, je suis d'accord, sur le long terme. Mais là, quelle solution ? Enfin, il y a des gens qui sont au pouvoir. Justement, c'est pour engager le débat. Les titres, et je vous donne la parole tout de suite. C'est CNews Info.
Tous les candidats malheureux de Parcoursup, la phase complémentaire débute à 14h. Dans une heure, les lycéens peuvent formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux s'ils n'ont pas encore trouvé de formation correspondant à leur recherche. Faut-il avoir peur du rebond de l'épidémie de Covid ? Le nombre de personnes testées positives augmente. 77 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. En France, c'est 3 fois plus qu'au début du mois. Certains professionnels de santé réclament le retour des gestes barrières, notamment dans les transports en commun. Face aux orages, Météo France vient d'élargir le nombre de départements en vigilance orange. 31 départements sont désormais concernés. La nouvelle salve d'orages violents a démarré sur le Lot-et-Garonne. Elle va gagner progressivement les régions allant du Massif central au Grand Est et la région lyonnaise.
On débat de l'immigration d'ailleurs depuis tant d'années. On pose la question aux Français comme on l'a fait à travers ce sondage sur leur perception de l'immigration. Mais je pose de nouveau la question. Est-ce qu'on a vraiment la maîtrise de ce sujet ? Est-ce que notre souveraineté est pleine ?
Je pense que vous avez posé la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, il a fui Paris, il a fui la France et se joue en grande partie à Bruxelles. Moi, je pense qu'il y a un fait très marquant et très signifiant. C'est la démission de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, qui finalement traduit la volonté de Bruxelles et notamment de l'Allemagne et des grands patrons, parce que vous évoquez justement ce besoin toujours plus grand de main-d'œuvre du patronat, et c'est vrai qu'il y a des besoins, mais finalement lui plaider pour que l'on puisse repousser les clandestins qui se présentaient aux frontières de l'Europe, et sur un certain nombre de points de désaccord et sous la pression des Allemands, il a été contraint à la démission. Donc en fait, l'Europe a choisi les portes grandes ouvertes a subi de ne pas soutenir un certain nombre de pays européens qui essayent de maintenir des frontières.
Par idéologie,
par pragmatisme, mais c'est un mix des deux, mais par idéologie, bien évidemment.
Ça date de la construction européenne. Dès la construction européenne, quand vous avez eu un combat dans chaque État entre les fédéralistes et les nationaux, les fédéralistes défendaient cette idée très universaliste que l'Europe doit s'ouvrir sur le monde, accueillir tout le monde et rayonner en accueillant tout le monde. Et c'est quelque chose qui est rentré dans l'ADN de nos dirigeants. C'est la douce Europe, un peu bisounours, qu'on nous a... Moi, j'étais abreuvé à cette Europe-là qui accueille tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, sauf qu'à un moment, il y a des conséquences, ça s'appelle le réel. Et les Français se rendent très bien compte qu'il y a un lien qui existe entre l'insécurité et l'immigration. Que si on ne contrôle pas son immigration, on ne peut pas contrôler sa sécurité publique. Et tout à l'heure, on parlait d'assimiler des gens, du moins d'accueillir des gens qui viennent de l'étranger dans notre pays. Mais il y a des conditions qui existent, qui sont prévues par la loi. Et à un moment, il suffit simplement d'appliquer la loi. Vous ne remplissez pas les critères du droit d'asile, vous ne restez pas en France. Il faut que les obligations de quitter le territoire soient appliquées. Vous voulez devenir français, pouvoir rester définitivement en France, il faut être assimilé. C'est inscrit dans le code civil. Le problème, c'est qu'on n'applique pas la loi. D'accord. Et que malheureusement, on a des gens qui s'installent de manière pérenne, mais qui ne correspondent pas au modèle civilisé.
Donc soit vous êtes fédéraliste pour une souveraineté européenne, et si je vous ai compris, une Europe bisounours qui tente...
Il y a des idéologies. Ouais. Non, mais il y a des idéologies. Alors moi, je n'aime pas faire comme ça des grands schémas stigmatisés, mais en fait, il y a des tendances. Il y a des tendances entre la défense de l'État-nation et ce que représentent les personnes qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui ont la même histoire, et ceux qui considèrent qu'il faut sortir des nations, parce que les nations, c'est la guerre. Ça, c'est aussi un message assez réducteur. Mais Emmanuel Macron, c'est le message qu'il nous a fait passer lorsqu'il dit « il y a moi ou les extrêmes ». Et ce discours-là, on le retrouve.
Moi, je ne peux que partager les propos de mon confrère, c'est-à-dire il s'agit
ça non mais vous s'agit... faites partie de la majorité non,
bah, et alors on peut pas
non, mais non mais il pense
pas
comme
vous de la majorité et être pragmatique et réaliste sur ce qui se passe en France hein, donc bon je partage les propos de mon confrère. Pourquoi? Parce que il suffit simplement d'appliquer la loi.
Bah oui.
Vous avez une loi de 2018 qui encadre et qui encadre la maîtrise du droit d'asile. Vous le rappeliez tout à l'heure, vous le rappeliez tout à l'heure. En disant que le droit d'asile est contourné.
Malheureusement,
parce que c'est ce qui fait ce droit d'asile que la France est un grand pays des droits de l'homme. On a su d'ailleurs accueillir les familles ukrainiennes qui fuient la guerre, et c'est ce qui fait aussi l'honneur de notre pays. Mais je reviens sur les propos de mon confrère quand il dit qu'il suffit d'appliquer la loi. En effet, une personne qui a déposé un dossier de droit d'asile qui a été rejeté, il a plus rien à faire en France.
Oui, mais vous le dites depuis des années. Vous savez que c'est pas fait.
Il suffit d'appliquer.
Pour avoir bossé en juridiction administrative, vous êtes submergé. Vous avez tellement de dossiers. Le problème, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'on n'a plus de douaniers, on n'a plus suffisamment de policiers pour venir appliquer. Quand vous avez des gens qui arrivent massivement, et il y a plusieurs problèmes. Il y a une procédure très complexe et très longue, et une absence de moyens. Et vous avez un flux de personnes continu qui fait qu'on n'arrive pas à gérer. Et la machine, elle s'enraye.
Qu'est-ce qu'on va faire? On marque une pause.
Et puis on revient.
Allez, ce sujet et d'autres. On va parler des femmes. Où sont les femmes?
Où sont les femmes?
À l'Assemblée. C'est historique.
Laurent
Berger, je viens de repérer
l'arrivée de ces femmes.
Oui.
Non, mais c'est vrai, à la présidence de
Elisabeth
Borne,
Madame la Premier ministre, peut-être dans quelques jours, c'est terminé.
On verra.
Bon. Allez, la pause. On se retrouve. Dans quelques instants, les titres. Je disais juste avant la pause, pour vous parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où sont les femmes, en référence à la fameuse chanson. Mais je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, on ne pourrait même plus dire où sont les femmes. Parce que si je me souviens bien des paroles, c'était qu'elles portent le blouson noir, elles fument le cigare. Il y a parfois des plaisirs provisoires ou illusoires le soir, je ne me souviens plus. Je crois qu'on ne peut plus dire ce genre de propos aujourd'hui, de paroles. Ce serait une chanson sexiste.
Ouais, mise à l'index.
Oui. Vous n'allez pas la chanter.
Non.
À la place, les titres.
Je vous ai offert ça.
en Afghanistan. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Au moins 1000 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées dans le séisme qui a secoué le sud-est du pays. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost à la frontière avec le Pakistan. C'est une conséquence de la baisse de livraison de gaz russe. L'Allemagne active aujourd'hui le deuxième niveau d'alerte de son plan d'urgence afin de garantir son approvisionnement en gaz. Nous sommes dans une crise gazière, a déclaré le ministre allemand de l'économie. Enfin, Vienne retrouve sa première place au classement des villes les plus agréables du monde, comme en 2018 et en 2019. La capitale autrichienne est placée pour la troisième fois au sommet de cet indice. Les experts ont récompensé la stabilité de Vienne, son offre éducative et médicale, ainsi que la qualité de ses infrastructures.
Les femmes à l'Assemblée nationale, j'ai retrouvé les paroles. Elles portent un blouson noir, elles fument le cigare, font parfois un enfant par hasard et dès que vient le soir, elles courent dans le néant vers des plaisirs provisoires. Et il y a la chance. Non mais si vous lisez la suite, elles ne parlent plus d'amour, elles portent les cheveux courts, elles préfèrent les motos, dites-moi où sont les femmes, etc. Certains vous diraient aujourd'hui que vous ne pouvez plus prononcer ces mots. Peut-être qu'Aurore Berger pourrait le dire, je ne crois pas. En tous les cas, ce qu'elle trouve historique et pas du tout provisoire, c'est l'arrivée des femmes à l'Assemblée. Et moi, ça m'a interpellée. Regardez donc, elle-même, et puis peut-être la future présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et ce mot historique. Alors quand Elisabeth Borne a été élue Premier ministre, on a dit historique. Peut-être pour Aurore Berger, elle estime que c'est historique. Pour la première présidente, ce sera la première présidente de l'Assemblée nationale dans ce cas-là. Historique, c'est une bonne chose. Mais enfin, elle en fait tellement un sujet politique en soi qu'au contraire, ça dépolitise le fait. Est-ce que je trouve, qu'en pensez-vous ?
On pourrait ajouter aussi que Marine Le Pen était... Ça fait nombre de présidentes...
Ah non, mais elle, c'est pas une femme pour certains, c'est Marine
Exactement,
Le Pen.
Exactement, vous avez raison de le souligner, c'est problématique.
Sandrine Rousseau qui avait dit, regardez les candidates à l'élection présidentielle, il y a Anne Hidalgo, il y a Valérie Pécresse, très bien, mais Marine Le Pen n'était pas citée.
Oui, c'est la fille de son père, donc il faut la détester. Ce qui est tout à fait atroce, c'est en rien progressiste. Mais bon.
Qu'est-ce que vous pensez de ce tweet ?
Moi, vraiment, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et oui, moi, j'entends quand vous dites bon, le mot historique est dévoyé, mais il n'en demeure pas moins que si Yael Braun-Pivet arrivait à briguer la présidence de l'Assemblée nationale, ce serait quand même une première à saluer. Vous avez, et puis il faut saluer aussi cette féminisation de l'Assemblée nationale. Hein, depuis...
Ça, c'est moins vrai, ça.
Comment ?
Ça, oui. C'est moins vrai, la féminisation.
Oui, mais par rapport aux autres années. Mais en tous les cas... L'évolution va vers plus de féminisation de l'Assemblée nationale. Donc, on peut que s'en réjouir. En tous les cas.
Oui, mais vous voyez, ça devient un fait. Et hier, je crois qu'elle a dit, oui, mais il y a des problèmes en ce moment. Mais le plus important, c'est ça.
C'est un fait qu'il faut saluer par un seul mot, madame. Vous vous souvenez quand Marguerite Yourcenar a été accueillie sous la coupole ? Les mots de Jean d'Ormesson étaient magnifiques. Il a commencé par dire « Madame ». C'est la première fois qu'on entend ce mot sous la coupole de l'Académie française. Être une femme n'est plus une condition qui vous empêche d'accéder à la coupole, mais être une femme n'est pas la condition pour accéder à la coupole. Pour être sous la coupole, il faut être un grand écrivain, et j'espère que ceux qui ont siégé avant de vous sont au niveau du vôtre. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est beau d'avoir une femme qui accède à une compétence. Mais ce n'est pas une condition. Ce qui compte, c'est d'être compétent. C'est l'intelligence. C'est ce qu'on peut apporter. Et moi, je vais vous le dire sincèrement, je trouve ça has-been. Je trouve son propos has-been. Je me fiche de savoir que c'est une femme. Ce que je veux savoir, c'est la compétence et la richesse qu'elle va nous apporter. Et je pense que le meilleur message qu'on puisse passer, c'est
celui-ci. Vous avez deux femmes compétentes.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que...
Je les connais, je peux vous dire que ce sont deux femmes compétentes.
On va se mettre en fait à compter les femmes, à compter les personnes de couleur, à compter les personnes de certaines catégories sociales. On dit d'ailleurs combien de femmes de chambre élues à la... Ce qui est une
Mais on donne des labels aujourd'hui. Vous avez des labels diversité dans nos administrations publiques. Quand vous avez suffisamment de Noirs, de Chinois, de femmes, bientôt on va... Mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Moi, ce qui compte, c'est la compétence.
Oui, mais ce qui serait bien, c'est que la compétence aussi, on la demande aussi aux hommes. Vous voyez ? C'est-à-dire... Non, mais... Ce que je veux dire, à chaque fois, c'est bien sûr, mais moi, je suis sensible à la compétence, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
Je connais des hommes blancs qui ont été virés parce qu'ils n'étaient pas femmes de couleur.
Oui, mais vous avez... Non, mais ça, je le nie pas. Mais vous me parlez de compétences. Vous me parlez de compétences. Eh bien, j'aimerais qu'on exige... des compétences à des hommes aussi qui accèdent au pouvoir. Par moment, moi, je m'interroge.
Mais s'ils accèdent au pouvoir,
je m'interroge sur certaines fonctions.
C'est que forcément,
je vous cite Françoise Giroud, la féminité n'est pas une incompétence, elle n'est pas non plus une compétence. Voilà.
Bien sûr.
Mais donc, en quoi...
C'est une bonne chose, certainement. Mais en quoi c'est un fait politique là, c'est ce que, en disant historique, en disant hier, c'est ça qui est important, elle en fait un fait politique.
Ce qui sera vraiment historique, me semble-t-il, c'est le jour où une femme sera présidente de la République. Parce que dans l'histoire de France, les femmes n'ont pas été au pouvoir depuis la Régence. Donc c'est quand même, comparons à l'Allemagne, comparons à nos voisins britanniques, c'est vrai qu'il y a dans l'imaginaire français, qu'on le veuille ou non, cette idée qu'une femme ne peut pas diriger le pays. C'est comme ça. Historiquement, c'est ainsi que les choses ont fonctionné. Donc ce sera historique, en effet, le jour où une femme sera présidente. Et je trouve que la féminisation de la vie politique française est une belle nouvelle. Juste une remarque. Il faut beaucoup parler aussi. Évidemment, à partir du moment où il y a plus de femmes à l'Assemblée, c'est beaucoup plus représentatif du peuple français. Mais il y a aussi la représentativité sociale. C'est-à-dire que quand on est dans une assemblée où globalement tout le monde est bourgeois, tout le monde vient de milieux privilégiés, eh bien là, les gens ne se reconnaissent pas hommes ou femmes.
Donc vous citez, d'ailleurs, quelle est la sociologie de l'Assemblée ? Je vais vous faire sursauter. Est-ce que c'est une opposition entre pays légal et pays réel ? Et attention, des gens, ça, je ne fais pas référence à Maurras, je fais référence aux misérables, c'est dans les misérables, etc. Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui entre pays légal et pays réel ? Quand vous voyez la sociologie de l'Assemblée, à quoi elle ressemble aujourd'hui ?
Moins depuis dimanche. Mais je note que nos amis écolos qui nous parlent de nature toute la journée n'ont même pas un agriculteur qui siège parmi eux. C'est-à-dire que vous n'avez personne qui est en contact avec la réalité de la nature.
Ils ont un défenseur des moustiques.
Donc moi, je note que les plus idéologues sont souvent les plus éloignés du réel. Mais par contre, on a une réalité qui est intervenue. L'élection, notamment des 89 candidats du Rassemblement national, c'est une réalité qui a su se manifester à l'Assemblée nationale. Les députés qui sont dans le groupe LR, ce sont les derniers soldats qui ont pu sauver leur mandat parce qu'ils étaient en contact avec leur localité, avec leur territoire, avec leur terrain. Donc je trouve que le terrain, au contraire, est très proche dans cette mandature, après avoir été très absent de l'ancienne, où il suffisait de se mettre en photo avec le président élu pour pouvoir être élu.
Mais ce qui est en effet à saluer, c'est que enfin l'Assemblée nationale est le reflet de cette diversité de la société française. Mais quand vous parliez, de plus en plus, on aimerait qu'il y ait plus d'ouvriers, on aimerait en effet qu'il y ait plus d'agriculteurs. Mais déjà, voilà, on peut là encore saluer bien ce reflet des opinions de la société française.
Par le biais, vous avez raison, de l'origine sociale, mais pas par le sexe, pas par la couleur de peau.
Quand je dis le sexe, je vais pas jouer ma Simone de Beauvoir ou ma féministe, mais ou ma Gisèle Halimi, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes-là. Elles ont combattu pour qu'il y ait des femmes députées. Elles ont combattu aussi pour qu'on accède à l'IVG. Et il faut rester vigilante sur ces questions-là. Et là, je ne fais pas ma Caroline de Haas, etc. Vous connaissez mon opinion sur elle. Mais c'est des combats, oui, qu'il faut mener. Et quand vous parliez justement, en disant ce sera historique si une femme accède à la présidence de la République. Vous avez raison.
Moi, je pense que ce sera historique quand il y restera, qu'elle prouvera les qualités.
Pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale, ça passe aussi par l'accession à des postes comme ça.
Dans 4 ans. Voilà mes résultats historiques.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites quand vous dites qu'il faut que ce soit uniquement de la compétence. Si on prend le cas de la dernière élection présidentielle, moi, j'aimerais m'intéresser à la personne de Valérie Pécresse. Précise que je ne la soutiens pas, que j'ai beaucoup de divergences politiques avec elle. Mais enfin, moi, je trouve qu'elle a été victime d'une forme de misogynie latente qui ne disait pas son nom. Ça veut dire que ce n'était pas forcément les gens ne disaient pas « Oh là là, c'est une femme, elle ne peut pas être candidate ». Mais il y avait, dans les critiques qui lui étaient faites, il y avait, si vous voulez, cette petite imaginaire.
Souvenez-vous de la première partie de sa campagne où elle était tout en haut des sondages, tout le monde disait « C'est elle, vous allez voir ».
Elle a fait un meeting où elle a mal parlé, elle n'a pas été une bonne comédienne. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait la même chose 5 ans auparavant ? Vous voyez quand même le deux poids deux mesures.
Quand sa voix a déraillé ? C'est mon projet !
Non, quand Emmanuel Macron, sa voix a déraillé, il est monté dans les sondages parce que les gens ont dit il monte la testostérone, il monte qu'il en veut, qu'il est déterminé, etc. Et quand Valérie Pécresse a fait plus ou moins la même chose, les gens ont dit oh là là, regardez comme elle est nulle, c'est malaisant, comme c'est on dit dans la langue des réseaux. Moi, j'ai trouvé ça très gênant.
C'est
franchement
vrai qu'une colère chez un homme peut être présentée comme du courage et que la colère chez la femme est présentée comme de l'hystérie. Et ça, c'est un très beau inégalité.
Je pose la question.
Vous avez raison.
L'évolution des femmes. Si, et même si vous partagez rien de ses opinions, de ses valeurs, Marine Le Pen avait été élue, vous auriez dit c'est quand même formidable, c'est une femme à l'Élysée.
Non mais il y a
10 minutes pour
non, non 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 mais moi je vous dis hein, moi cette histoire de compétences j'y suis sensible et heureusement d'ailleurs pour revenir sur Valérie Pécresse
non,
ça a été mais ça a été une mauvaise communicante mais il n'en demeure pas moins que elle est compétente on le voit à la présidence de la région Île-de-France.
Si on joue la carte du féminisme alors qu'elle joue jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elles auraient pu dire pour Marine Le Pen aussi peut-être première.
On est d'accord. Voilà, enfin,
je pense pas qu'elle serait allée jusqu'à là. Bon, je reviens aux faits politiques. On est au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors, où est le pouvoir? Est-ce qu'il est encore quand même à l'Élysée? Est-il à l'Assemblée nationale? Ou est-il à Bruxelles? Est-ce que c'est complotiste de le dire ou est-ce que c'est lucide de le dire? J'aimerais avoir vos avis respectifs. C'est ce qu'a dit encore ce matin Michel Onfray, on l'écoute. C'est Bruxelles qui décide de tout. C'est à Bruxelles. C'est les technocrates, ou en tout cas les politiques de Bruxelles, qui ont les clés du camion. Est-ce vrai? Écoutons-le.
Je dis, mais comment en est-on arrivé là? Et je reviens effectivement toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué. Mais je dis, mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles, c'est tout. C'est-à-dire quand nos caisses sont proprement vidées parce que nous sommes un pays contributeur, que nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux États-Unis. Je veux dire, on fait une politique qui est très en faveur de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions acquis aux Américains, sûrement pas à l'Europe, elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Mm-hmm. Je me dis, mais je préfère que mon logiciel soit bloqué, parce qu'il est clair, je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là.
Tour de table, qu'en pensez-vous, Raphaël Saint-Vit?
Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. Je pense que l'analyse de Michel Onfray est assez juste, combien même on pourra toujours lui reprocher un certain nombre d'excès. Mais c'est vrai qu'on a tendance, parce qu'on est ethnocentré et qu'on est persuadé que la politique se fait encore à France, à Paris, que ce soit à l'Élysée ou Palais Bourbon, à se persuader de ça. Mais dans la réalité, dans les faits, bien évidemment que Bruxelles a un poids considérable dans nos vies et qu'une partie, une grande partie du pouvoir, finalement, a fui à Bruxelles et à Strasbourg. Mais d'une certaine manière, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir, c'est pas seulement Bruxelles, mais d'une certaine manière, le pouvoir, il est peut-être davantage dans les banques, il est peut-être davantage dans les GAFAM. Et ça explique aussi peut-être le peu d'intérêt, le peu d'attrait, même du personnel, ceux qui habituellement sortaient de l'ENA ou de Sciences Po ne rêvaient que d'intégrer un ministère. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, je pense que ça interroge et ça doit nous. Si on suit leur parcours, on s'aperçoit qu'effectivement, on va les retrouver chez McKinsey. On va la retrouver dans des grands cabinets de conseil, on va la retrouver dans des grandes banques, mais plus dans les ministères, plus au Palais Bourbon.
C'est votre avis aussi ?
Je suis assez d'accord avec vous. Je ne pense pas que le pouvoir soit localisé. On pourrait croire que le pouvoir est à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, etc. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité qui est diffuse, qui est presque caoutchouteuse, quoi, du pouvoir gazeuse, ouais, du pouvoir contemporain. Quand on voit par exemple que quelqu'un comme Zuckerberg a eu l'occasion à un moment dans sa vie de faire de la politique, sans doute de devenir président des États-Unis s'il l'avait désiré. Il n'en avait pas le désir. Pourquoi ? Parce qu'il avait 10 fois plus de puissance à la tête de cet empire qui est plus grand que l'empire américain, qui est l'empire de Facebook. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais je pense que le vrai pouvoir est là. Quant à l'Europe, je suis d'accord pour faire 3 reproches à l'Union européenne. De dire qu'elle n'est pas assez démocratique dans son fonctionnement. Les gens d'ailleurs votent peu aux élections européennes, que voilà, elle n'est pas assez aussi transparente. On ne parle pas même dans les médias, on ne parle pas beaucoup de la vie politique européenne, et sans doute que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Et le troisième, bon, pas assez social, et 4e reproche, c'est qu'elle aurait dû commencer par la culture, et pas par l'économique. Ouais. Oui, mais j'en ai fait 4 du coup. Mais alors je pense que toute la question est là, et c'est là que je ne serai pas d'accord avec Michel Onfray, c'est qu'une fois qu'on fait ces reproches, est-ce qu'on désire donc revenir à une politique des nations ou venir à une politique des nations et sortir du paradigme européen, ou est-ce qu'on désire dire je suis pour un autre paradigme européen?
Mais moi je pose toujours la question, est-ce que, alors peut-être que vous le savez parce que vous êtes très baigné dans la politique, qui sont les 3-4 têtes pensantes de l'Europe? Qui dirige l'Europe aujourd'hui?
Il y a la présidence de la Commission européenne.
Il y a
les technocrates qui arrivent déjà à comprendre leur réglementation, la législation, les directives, qui arrivent à s'inscrire. Parce que c'est quand même compliqué. Le droit européen est particulièrement compliqué. Vous savez que c'est l'un des plus gros contentieux en France lorsqu'il s'agit de venir transformer dans le droit français du droit européen. On a eu encore des grandes décisions au mois de décembre où le Conseil d'État s'est arraché les cheveux pour savoir comment il allait prendre en considération le droit européen, mais en même temps les exigences
issu de la Constitution française.
C'est-à-dire que c'est parfois antinomique.
Mais bien sûr que c'est antinomique, et c'est très très compliqué. Je suis d'accord sur le constat de Michel Onfray de dire que la gouvernance aujourd'hui n'est plus en France. Et elle est diluée dans les GAFAM, etc. Mais d'un point de vue administration publique, la gouvernance, elle est au niveau européen. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le souverain, il peut toujours faire preuve de souveraineté. C'est-à-dire que si demain, le président de la République, de concert avec l'Assemblée nationale et le Sénat, décide de récupérer le pouvoir qu'ils ont confié à l'Union européenne, ils le peuvent.
Oui, d'accord,
donc
mais...
en fait, il y a de la politique en France.
La réforme
mais, ils le peuvent, mais les dirigeants européens qui s'aventurent à contester le pouvoir de Bruxelles sont aussitôt mis à l'index.
Ah bien sûr, on a vu l'Angleterre.
L'Angleterre, puis pour ceux qui sont encore dans l'Europe, regardez Orban, regardez le Premier ministre polonais.
Et le général de Gaulle, quand il a fini et avec qu'il est passé au nouveau franc. Enfin, il a eu une contestation énorme en face de lui. Mais à un moment, soit on a des chefs d'État qui s'imposent. Saint-Louis s'est imposé. Enfin, dans l'histoire de France, de toute façon, les seuls noms que les Français se souviennent, c'est ceux qui sont imposés face à un système.
À quel point nos mains sont liées ? Par exemple, la réforme des retraites, certains, quand vous dites qu'elle est exigée quand même par Bruxelles, on vous dit, attention, c'est du complotisme.
Mais c'est vrai.
Sauf que c'est écrit...
Mais
enfin,
oui,
c'est à vérifier,
les régions, les nouvelles
même
régions,
dans le domaine,
c'est,
c'est acté que
même
elles
dans le domaine
après...
du secteur public. Enfin, on voilà. voit dans les transports, il y a le poids de Bruxelles qui permet de libéraliser, ouvrir certains secteurs publics à la concurrence. Donc, on peut pas nier qu'il y a un véritable poids de Bruxelles. On parlait tout à l'heure de l'immigration. L'immigration, on ne va pas le nier, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui freine l'expulsion des immigrés illégaux alors que ça a été décidé par des juridictions nationales des États européens. D'ailleurs, vous avez, et c'est l'actualité récente, vous avez le Premier ministre britannique qui a décidé de... par un projet de loi, de déposer un projet de loi pour contourner l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme pour éviter les expulsions d'immigrés illégaux. Donc moi, je vous rejoins là encore quand vous dites, à un moment, c'est aussi aux États de faire preuve de souveraineté sur certaines questions.
La majorité est en train de revenir.
Non, mais c'est. Mais moi, je suis tout simplement pragmatique, je le rappelle.
On aime beaucoup la majorité.
Et je fais du droit. Et je fais du droit. Donc, je vois ce qui se passe aussi dans la réalité et dans nos quotidiens.
Et on continue, pardonnez-moi, les titres de l'actualité. C'est nous.
Une écrivaine menacée sur Internet depuis qu'un extrait de son roman est tombé au bac de français. Jour de colère, c'est le nom du roman de Sylvie Germain. Des milliers d'élèves de première se déchaînent contre elle sur les réseaux sociaux parce qu'ils jugent son texte trop difficile à analyser. La SNCF va mettre en vente 500 000 places supplémentaires dans les trains cet été afin de répondre à la demande record selon le PDG Jean-Pierre Farandou. Les trains sont selon lui complets les jours de grand départ, mais il reste des places en dehors de ces périodes. Enfin, réservation obligatoire pour se baigner dans deux criques du parc national des Calanques. L'accès aux plages de Sugiton et des Pierres sera limité à 400 personnes par jour cet été. Une mesure pour protéger ces criques de la surfréquentation touristique.
Je vous ai interrompu. Effectivement, vous donniez l'exemple du service public, etc. Bon, la mainmise de Bruxelles, elle était... Qu'est-ce que c'est ? Attendez.
C'est Bruxelles qui vous appelle, là.
Oui, Bruxelles vous rappelle alors.
Oui, voilà. Parce que je cherchais les paroles tout à l'heure. Sont les femmes.
Ouais, c'était la
c'est
fête de la musique.
Seul, hier, voilà,
donc,
voilà.
On est dans l'actualité.
Je
ne
sais pas
encore.
Si c'est votre playlist. Hein, je bon, on va conclure. on arrive à la fin, d'ailleurs. Est-ce qu'on est à la fin ? Ah ben on est à la... Mais qu'est-ce que ça passe vite ?
Ça passe vite.
Mais c'est un bel acte manqué. Vous disiez, on ne pourrait plus écouter cette musique aujourd'hui, tout ça.
Rébellion.
C'est tout, c'est dit. Merci pour ce débat. C'est un plaisir de vous retrouver.
C'est partagé, Sonia.
Et merci pour vos analyses respectives. À très vite et bel après-midi sur CNews.
Tout de suite, Clélie Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.